Bonsoir tout le monde, merci d'être venu déjà et pour commencer je laisse la parole à Catherine qui a quand même organisé grandement cette rencontre et qui est l'éditrice de ce livre que vous avez presque tous entre les mains.
Donc merci d'être venus comme ça nombreux. Le comptoir d'édition est extrêmement fier de publier François Brasvic. Tout le monde est hyper étonné, quoi, il a fait un livre, François, c'est un livre merveilleux pour aller à la rivière, parce que c'est que des histoires, des fictions, tout ça. Et c'est vraiment un livre de vacances. Et je vais dire juste un tout petit mot pour le comptoir d'édition, parce que donc moi je l'ai créé en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans, ou 2010, je ne sais plus. En tout cas... Au départ, c'était une minuscule micro maison édition, mais quand même classique. Et puis là, depuis un an, on essaye de devenir un collectif d'éditeurices. Donc, et avec l'idée de publier des livres situés, c'est-à-dire qui parlent des vraies écritures, pas du conte d'auteur, pas des mémoires, machin, mais des vrais livres à conte d'éditeur, quoi. Donc, c'est-à-dire que les auteurs touchent un droit d'auteur. Mais quand même des écritures situées qui viennent d'ici, d'un territoire rural, parce que beaucoup de gens sont arrivés, beaucoup de gens sont hyper intéressés par l'écriture, et ça vaut le coup d'être un outil, quoi. De même que la radio est un outil pour le territoire, de même que cette merveilleuse librairie est un cadeau pour le territoire, ça vaut le coup d'être un support, quoi, pour l'édition. Et du coup, bon, on a une toute petite trésorerie, donc c'est hyper bien si on vend les livres très vite pour faire le suivant.
Merci Catherine.
Je vais dire bonjour aussi quand même, parce que...
Vas-y.
Enfin bonjour, même si je connais tout le monde à peu près. Merci d'être là. Et ça me fait plaisir de retrouver, puisque je ne suis plus là, des personnes que je vois pas forcément régulièrement et puis que je n'ai pas vues depuis longtemps. On a fait à Vassieux, il y a deux jours aussi, un truc dans un lieu formidable, les Espelines. Il y avait plein de monde. Je signais plein de bouquins, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire des dédicaces, etc. Et donc, pardon, non, mais ce n'est pas sonorisé, donc je vais parler plus fort, Manu. Voilà, c'est un vrai plaisir, et cette librairie est un plaisir, même si je ne la connais pas bien. Voilà.
Enchantée de faire ta connaissance, François. Et encore merci à tout le monde d'être là. Et c'est un peu intimidant parce que, comme tu dis, tu revois plein de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Et moi, c'est la première fois que je te rencontre. Et tout le monde te connaît, sauf moi. Et c'est moi qui dois poser des questions. Bon, bah, allons-y. En tout cas, de ce que j'ai compris, tu as donc parcouru le Vercors en tous sens. C'est ce qui est noté sur la quatrième de couverture. Et de ce que j'ai compris aussi, tu fais preuve d'un engagement sans faille pour les questions culturelles, puisque tu as participé à la création de l'ACCR et de Radio Royan, et aussi pour les questions environnementales, puisque tu as participé au bureau du Parc Naturel Régional. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Non, c'est ça. Les questions environnementales, alors je ne suis vraiment pas spécialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens dans un milieu, voilà. Alors, par la force des choses, j'ai appris des choses. En particulier, je vois François, le domaine naturalisme, je ne connaissais rien, hein, en arrivant ici. Et puis, j'ai appris un peu, peu à peu. Le côté culturel, oui, bien sûr. Disons qu'on a beaucoup fait, voilà. Parce que j'ai une devise qui est agir avant de réfléchir. Et donc, voilà, on a beaucoup fait avec plus ou moins de succès, mais enfin, ça a pas mal marché, voilà.
Et donc, tu dis, quand tu es arrivé là, tu es arrivé, tu n'es pas né dans le Royan ou sur le Vercors ?
Ah non, ce qui est une question intéressante. Je renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas lu, au formidable article de Bérangère dans le dernier effeuillé, parce que ça, c'est très intéressant. Non, je ne suis pas du tout né là. J'étais à Paris et j'ai fait une école de théâtre, donc l'école Charles Dullin. J'ai ensuite travaillé un an au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et puis, on est venu jouer un spectacle invité par la Maison de la Culture à Grenoble. Et ma femme m'a accompagné, c'était au mois de mai. On avait déjà un bébé, j'avais 22 ans. Et voilà, sur un coup de tête, pareil, agir avant de réfléchir. On a décidé que 2 mois après, on serait dans le coin. Je ne connaissais pas le coin, ni Grenoble, ni le Vercors. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est tout.
Et donc, Sous la peau du Vercors, c'est un recueil de nouvelles. Et tu le présentes comme des petites histoires où se mélangent l'inventé et le réel. Mmh. Et dans lesquelles on ne doit, je te cite, « chercher aucun didactisme, aucune analyse théoricienne, aucun ethnocentrisme ». Et surtout, tu écris « Elle touche à l'universel et pour autant aurait-elle pu se passer ailleurs ».
Oui.
Donc, pourquoi donc l'envie d'écrire ces histoires au sein même du Vercors et du Royan ?
Alors, il y a deux raisons. Hein. La première est très personnelle, c'est que donc, c'est un peu évoqué, j'ai été entre guillemets obligé de quitter le Royan après avoir passé 46 ans à Pont-en-Royan pour les histoires de chute de rochers, puisque ma maison était au début des gorges de la Bourne et que peu à peu c'est devenu un peu inhabitable jusqu'au moment où on nous a dit c'est inhabitable, donc on a été exproprié. Et que là, pour des raisons familiales, mais aussi, on n'avait pas trop envie avec ma femme de se mettre ailleurs à Pont. Voilà. Même si mes enfants y sont, mes petits-enfants, les autres sont à Corançon. Voilà, on s'est dit, mais ma femme avait aussi sa famille du côté d'Avignon. Donc on a dit, allez, on tourne pour le moment la page, on verra si on la retourne dans l'autre sens. À un moment. Et donc... J'ai écrit aussi quand même pour, je dirais, contrer l'angoisse ou la tristesse d'avoir quitté ce coin. Et ça continue, hein. Je peux vous dire que pas mal de matins où je me lève en me disant « Mais qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que c'est que ces quatre murs ?» Donc voilà, enfin, c'était une manière, oui, de contrer la chose. Et l'autre raison, ça c'est plus sur la forme du livre, c'est que je suis toujours désespéré, alors d'une part, que ça, même si c'est des fictions, je trouve, moi j'ai rien lu depuis des années sur le Vercors, à part des bouquins théoriques, effectivement, sur des choses très précises, en particulier liées à la résistance, mais voilà, je trouve dommage qu'on n'écrive pas de manière contemporaine sur une région. Et puis je trouve dommage, alors ça c'est aussi pour ça que j'ai pas mal mis le parc du Vercors dans ce livre, que les collectivités, et en particulier le parc du Vercors, qui a des latitudes un peu différentes que des collectivités, ne se retournent pas quand même régulièrement pour regarder un poil derrière, 1 an, 2 ans, 10 ans, alors ils le font au moment des révisions de chartes, mais c'est très la théorique à nouveau, et puis c'est pas très public, mais se retournent pas pour dire qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait, est-ce qu'on s'est gouré, tout le monde fait des erreurs, enfin, voilà, il n'y a jamais d'évaluation des choses, je trouve, en matière d'aménagement, d'évolution, voilà, pour ceux qui ont des responsabilités. Donc je me suis permis de faire des bribes aussi d'actions du parc, qui, enfin, dans les histoires, hein, encore une fois, c'est cité comme ça. Mais à titre d'exemple, je peux citer, il y a une histoire qui s'appelle « À 10 ans, j'ai failli voir la mer », et qui est en fait une forme d'hommage, entre guillemets, au service de remplacement, qui existe encore, hein, mais qui a été quand même un truc... assez extraordinaire pour les agriculteurs. Je crois que c'était le premier en France. Hein. Et voilà, donc c'est une manière de parler de ça que de faire une histoire, encore une fois. Voilà. Et donc, il y a des choses sur le parc qui, pour ceux qui connaissent bien ou qui ont été impliqués, paraîtront très positives. Et puis, il y a des choses plus négatives. Mais c'est pas un bouquin sur le parc. Simplement, je le mêle. Parce que c'est vrai que j'ai travaillé dans un parc naturel régional, hein, dans le Vercors, mais aussi dans un parc naturel régional.
Mmh. Donc finalement, c'est une façon aussi de garder trace de l'évolution de ce territoire.
Il y a un ancien directeur, parce qu'à un moment, j'étais peut-être le plus ancien lié à l'histoire du parc. Comme ça, je parlais encore impliqué. Et il y avait un directeur, Pierre Vec, qui voulait absolument qu'avec un ami qui a été le directeur de la Fédération des Amis Usagers du Parc, Jean-Pierre Liard, on écrive une histoire du parc. Et puis nous, on ne se sentait pas, voilà, ça nous paraissait un peu trop compliqué. Y compris d'ailleurs, parce que ça c'est une des questions qui me tarabuse, je me demande, je dis, on ne se retourne pas sur ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on pourrait le faire vraiment aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, est-ce que si je vais au parc chercher des archives, je vais tout trouver? C'est pas sûr. Enfin, si j'ai besoin de faire un truc très documenté, et l'ordinateur, je sais bien qu'il y a une mémoire dans l'ordinateur, mais j'ai un doute. Voilà.
Elle peut cracher. Et est-ce qu'il y a aussi une nécessité de transmission, peut-être, oui, d'une temporalité, d'un temps que tu as connu sûr, oui,
C'est pour ça que je dis, on ne parle pas des... Il y a de la transmission, finalement, et avec des actions des fois très, très poussées, hein, sur des choses très anciennes, mais je trouve que les 50 dernières années, parce que moi, j'ai couvert à peu près 50 ans avec le parc, à peu près. Enfin, il n'y a pas tout à fait ça, mais il y en a d'autres ici, hein, qui sont des anciens. Mais voilà, je pense que c'est bien de transmettre des choses... Et peut-être un certain amour aussi d'un territoire qui va plus loin. C'est pour ça que ça s'appelle « Sous la peau du Vercors », qui va plus loin que de dire « C'est beau, y a des montagnes, oui, mais il y en a partout. Y a des falaises, oui, mais il y a bien d'autres coins qui... » Voilà. Sans chercher à creuser ce qu'il y a de spécifique, finalement, dans ce Vercors. Voilà.
Et donc c'est une transmission. Quand, ouais. Et quand on gratte sous la peau du Vercors, qu'est-ce qu'on trouve sous cette peau?
On trouve de manière prosaïque des truites planquées sous le... Puisque j'en parle pas mal de la pêche et des rivières. On trouve la spéléologie et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, le karst, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sous la peau du Vercors comme ça. Mais c'est aussi l'idée de donner ou de trouver un sens à ce qui se fait. Hein. C'est-à-dire d'aller plus loin que il y a eu tel truc à tel moment, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça a enclenché? Qu'est-ce que ça a déclenché? Donc il y a des choses qui sont sous la peau, dans le sens... C'est un plaidoyer qui est un peu à la fin aussi pour dire si on n'allait pas gratter la surface, il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas d'histoire. Et on n'avancerait pas. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est dans le texte, c'est dans le dernier texte, si je ne me trompe pas, qui est aussi dans les feuillets.
Qui était aussi dans les feuillets. Ouais.
Où on rencontre un tanneur aussi. Et,
voilà. Oui. Qui est mon voisin. Qui a été mon voisin parce qu'il est mort il y a. Pas mal d'années.
Et donc, il y a bien une part de réel. Il n'y a pas que de la fiction. Il y a des petites touches autobiographiques.
Il y a la première et la dernière est, on peut le dire, autobiographique.
Oui. Hein.
Et puis le milieu, tout le reste, les 8 autres, sont complètement, parce que c'est des questions qui m'ont déjà été posées, complètement de fiction quant aux personnages qui évoluent dans les histoires. Simplement, ces personnages, je les ai placés dans un milieu qui existe, dans des paysages qui existent ou dans des événements qui ont existé.
Qui vont peut-être exister. Puisqu'il y a du futur aussi.
Il y a aussi un peu de futur.
On s'en va en 2030.
2066.
En 2035 et tout ça, oui. Et donc, oui, c'est vraiment très, très, très varié. Il y a plein de thématiques. Donc, comme tu l'as dit, la spéléologie, pas facile à dire.
J'ai jamais fait de spéléologie. C'est une fois, Bruno m'a emmené un bout de falaise. Là. On est rentré dans un trou. Et puis on est ressorti, j'étais incapable de redescendre, j'ai retrouvé la lumière, mais enfin bon, je ne suis pas du tout un spéléologue. Pêcheur, oui, mais pas spéléologue.
Voilà, on parle de nature, on parle aussi d'immigration, à la fois humaine. Il y a l'histoire avec Mamija et toute une histoire que tu imagines sur l'arrivée de Syriennes et de Syriens sur le territoire. Et il y a aussi l'immigration animale. Dans le Conseil de Lente, il y a l'arrivée des loups qui viennent d'Italie, mais qui, eux, ne connaissent pas les frontières. Il y a même un peu de science-fiction, presque, si je peux dire ça. Il y a des taxis transportés en 2035, comme le Conseil de Lente. Est-ce qu'il y a une thématique en particulier qui tenait plus à cœur qu'une autre, ou alors elles sont indissociables les unes des autres ?
Je crois que c'est indissociable, et puis ça se recoupe. Enfin, on recroise en fait des choses qui sont pour moi essentielles, mais peut-être pas. Je parlais de la transmission, mais effectivement, le fait, voilà, par exemple, on dit toujours le Vercors est une forteresse, une île, machin, ce qui est à la fois pas faux. Et à la fois, j'avais fait un petit texte de présentation qui était différent au début, c'est en disant, est-ce qu'il y a des forteresses qui ont été autant traversées que le Vercors, autant sillonnées, autant, voilà. Est-ce qu'il y a des îles qui sont aussi abordables que le Vercors ? Alors, je dis ça comme ça, mais ça me rappelle, parce que c'est des trucs... quand j'étais président de la FAUP, je suis devenu président de la Fédération des Amis Usagers du Parc, au moment où il a été question de faire le tunnel des Grands Goulets. Voilà. Et là, voilà, c'est assez passionnant. Il y avait des gens là-haut, sur le Vercors central, qui pleuraient parce qu'ils étaient isolés. Il fallait les désenclaver. Et quand tu regardes, tu te dis, attends, effectivement, ils sont en haut, mais enfin, il y a X manières de rejoindre ce haut. Ils ne sont pas spécialement, il y a des coins beaucoup plus enclavés en France que cet endroit-là. Donc c'était aussi des supports du combat sur l'histoire du tunnel, mais je veux dire, c'est des choses importantes aussi, de se sentir enclavé. Et enfin bon, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire-là, parce que je m'attarderai sur toutes les histoires. Mais ça, c'est des thématiques aussi, la circulation des gens. Et effectivement, l'accueil ou le rejet de... l'étranger, entre guillemets, là, ça rejoint aussi l'article de Bérangère dans Les Feuillets, c'est pas quand on dit l'étranger, c'est celui qui est pas de ma famille, enfin, ça commence comme ça, en gros. Et puis après, on y va, et puis après, on veut pas de la commune d'à côté, on veut pas de... Je parle pas des étrangers seulement, hein. Et puis l'Europe, enfin bon, on peut prendre tous les rejets qu'il peut y avoir, en particulier en milieu rural, parce que c'est très lié au foncier, à la propriété foncière, ça. Propriété privée foncière. Voilà, tous les rejets qu'il peut y avoir. Et donc, est-ce qu'on intègre, est-ce qu'on n'intègre pas, est-ce que... Voilà.
Et il y a justement un des textes que tu as écrit dans ce sens-là. Tu dis, en 2012, j'ai écrit... et raconter la première partie de cette histoire à l'occasion d'une fête des Coulmes. Donc c'est le texte qui s'appelle Coulmes. Et en 2015, en tant que représentant des amis usagers du parc, au bureau du parc du Vercors, j'avais posé la question de savoir si les parcs en général et celui du Vercors en particulier, pour des raisons géographiques, n'étaient pas des structures adaptées pour un accueil des réfugiés syriens. Et je revois encore les visages affolés et bêtés des élus, comme si j'avais sorti la bourde du siècle, et j'ai alors repris la plume pour donner une suite à la première partie.
C'est ça.
Ça, c'est ce très beau texte que vous avez peut-être déjà lu ou que vous allez découvrir, qui s'appelle Coulm, et qui nous envoie dans un futur fantasmé avec des réfugiés immigrés syriens et syriennes sur le plateau.
Vie.
Voilà. Exactement. Et donc finalement, les textes que tu as écrits, qui composent ce recueil, sont aussi des textes que tu as écrits au fur et à mesure des années et qui t'ont servi aussi
J'ai écrit, à part celui, il y en a deux, c'est dit, que je n'avais pas jamais écrit, mais que j'avais raconté, c'était des commandes pour les fêtes des Coulmes, quand elles existaient, et que j'ai après prolongé, réécrit, prolongé. Les autres, je les ai écrits depuis que je suis parti d'ici. Donc, c'est deux années et demie passées. Comme ça, peu à peu.
Et il y a un texte. Alors, tu disais qu'il y avait une part de réel, une part de fiction. Il y a quand même Les Amantes, ce petit texte qui est au centre du bouquin, qui est assez court.
Ouais.
Et qui raconte justement ce que tu racontais tout à l'heure. sur ton départ. Finalement, ça parle de des maisons. Oui, je peux pas le dire. Oui, moi je dis rien alors. Et est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît, parce qu'il est court et qu'il est très beau.
On s'appelle les amantes. Ce matin, au moment où le soleil ourle le sommet de la falaise, ma compagne de toujours m'a quitté. Aussi loin qu'il m'en souvienne, nous étions comme deux jumelles, deux siamoises, levées et nues l'une contre l'autre. Qu'il gèle, qu'il vente, ou que le soleil nous brûle, nous restions immobiles, soudés à jamais. Mais depuis quelques mois, ma compagne s'est mise à glisser presque imperceptiblement dans notre lit. Quelques craquements, quelques frôlements, des petits courants d'air inconnus, puis plus rien pendant quelques semaines. Mais cette nuit, elle s'est pressée un peu plus fort contre moi, un peu trop fort. Elle s'est mise à frissonner. Et puis au petit matin, il y a eu comme un coup de feu et elle a sauté hors de notre couche. Elle a renversé, écrasé Douglas et Buis, perdu plusieurs morceaux, roulé, bondi et rebondi, dans un fracas qu'ont répercuté toutes les falaises de la gorge, et elle s'est immobilisée. Il me semble l'apercevoir encastrée dans le mur d'une des maisons du bas. Il y a plusieurs humains autour de ces camions rouges avec des lumières bleues qui clignotent. Et puis, il y a eu comme à chaque fois ce drôle de vent, ce drôle de bruit, venant de cet énorme insecte qui est venu tourner autour de moi plusieurs fois, avant de s'éloigner vers le nord et de disparaître dans la gorge. Le soleil va se coucher, les derniers rayons sont pour moi, le silence est revenu et comme si de rien n'était, un bouquetin s'est perché quelques instants sur ma tête. Avec la nuit, j'ai senti un grand froid sur mon flanc gauche. Je ne sais pas si je supporterai longtemps cette solitude. J'ai très envie de rejoindre ma compagne. Voilà.
Merci. Donc, voilà. Et donc ça, c'est un texte que tu as écrit concernant les maisons à Pont-en-Royan.
Ma maison en particulier.
Voilà, ta maison. Voilà. C'est un très beau texte. Et je voulais savoir aussi, dans un des textes, à 10 ans, j'ai failli voir la mer. On va suivre un petit garçon qui, du coup, a 10 ans, et qui va noter régulièrement, on va avoir ses notes
dans un
petit carnet, des petites fautes d'orthographe, tout ça, c'est très, très chouette. Moi, je me suis laissé imaginer que c'était peut-être même des textes que tu avais peut-être écrits quand tu étais petit, mais peut-être pas.
Non.
Savoir, toi, ton rapport à l'écriture, est-ce que tu écris depuis toujours?
Moi, j'ai toujours plutôt travaillé dans l'oralité avec le théâtre, ou même pour la radio. Alors, il se trouve que j'ai été amené à écrire pas mal et pour le théâtre, et pour des journaux, journal satirique, à un moment où je sortais le Caneton déchaîné, qui était un journal un peu violent, entre guillemets, sur les politiques locales. Ça serait, les feuillets seraient un correspondant aujourd'hui, mais plus dilué que nous. Nous, ça cartonnait. Et puis, après, j'ai écrit pas mal pour Le Lien, qui était le journal de la Fédération des Amis Usagers du Parc. Donc oui, j'ai été amené un peu à écrire, mais je suis pas fondamentalement un spécialiste de l'écriture. Et je pense que, je ne sais pas, mais vous verrez dans les textes que peut-être vous retrouverez quand même une forme d'oralité qui est devenue couchée sur le papier. Mais enfin bon, c'est voilà. Mais je ne suis pas ni un écrivain, ni un écriteur professionnel.
Mais tu es un très beau raconteur d'histoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Ça, je veux bien.
Puisque, comme plein de gens, y a beaucoup de monde qui ne sont pas forcément du coin. Moi, je ne suis pas du coin à la base. Et ça me fait vraiment... c'était très chouette de lire ce bouquin. Comme a dit Catherine, au bord de la rivière ou en buvant le café le matin aussi, je vous jure que c'est super aussi. On les grappille comme ça, vraiment, avec beaucoup de plaisir. Et encore plus, j'imagine, beaucoup de plaisir quand on habite et qu'on est d'ici. Mais quand on est là depuis 5 ans, on est d'ici aussi. Et même depuis 6 mois. Hein. Et donc, c'est vraiment un grand, grand plaisir de se retrouver aussi et de voir aussi un peu toute cette évolution, les évolutions humaines, animales, politiques de ce territoire qu'on aime tous. Et c'est ça qui nous rapproche, je pense, aujourd'hui aussi.
Alors, c'est la seule question que je me pose, moi, vraiment, mais je le saurai un jour. Effectivement, on écrit, donc en insérant, en inventant des histoires, en insérant des personnages qui n'ont pas existé dans un paysage, encore une fois, dans des communautés humaines. Et la question, moi, je me dis, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Vercors, est-ce que ça l'intéresse de lire ça? Je ne sais pas, je suis incapable de répondre. Parce que c'est vrai aussi que pour ceux, il y a par exemple pour la pêche, il y a une remontée complète des gorges de la Bourne, très descriptive en fait de lieux, voilà. Et ça, voilà, c'est vrai que si on connaît, moi, ceux qui m'en ont parlé, qui connaissent un peu, étaient ravis. Mais après, si on ne connaît pas, mais cela dit, les gorges, des gorges, il y en a partout.
Oui. Oui, et si
et
on.
Celles du Vercors sont pas plus, elles sont sympas, mais elles sont pas plus extraordinaires. Mais ce qui m'intéressait aussi, je crois que je le dis dans l'histoire, c'est que c'est peut-être en milieu sur Terre, on va dire, un des milieux qui est le moins fréquenté, enfin, sur certaines parties, moins connu, moins abordable, moins surfréquenté, donc, voire pas du tout. Voilà, c'est des milieux qui sont, d'un point de vue et faunistique et... et végétation, je crois, très peu connue. Mais où tout d'un coup, c'est intéressant, on trouve une voiture écrasée dans les taillis hein, depuis des années et des années. Parce que les gorges, c'est aussi un endroit de sortie de route, voire de suicide. Hein. Donc voilà, enfin bon, c'est pour vous dire les errances des histoires. Oui.
Oui. Oui, mais bon, la première ne se termine pas si mal qu'on ne le croit.
Ah non.
Et en tout cas, si on ne connaît pas le coin, si on n'y habite pas, je pense que ça peut être aussi une très belle entrée en matière et pour pouvoir le découvrir tout en profondeur et aller gratter vraiment sous la peau, voilà, sous le gruyère du Vercors, voilà. Pourquoi pas l'avoir appelé sous le gruyère d'ailleurs. Non, pardon. Désolée pour cette cette improvisation. Voilà. Merci beaucoup François.
Merci
et
à toi.
Est-ce que quelqu'un, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, c'est votre moment.
Moi j'ai lu.
Ah, t'as déjà lu ?
J'ai déjà lu le livre. Et j'ai adoré en fait. Je voulais te remercier d'avoir partagé. Je l'ai pris un petit peu comme un Vercors un peu rêvé. Rêvé d'avant, de futur, voilà, et j'ai voyagé comme ça. J'ai eu envie d'aller voir des endroits s'il y avait. Je veux pas rêver, mais la trace des fesses de...
Ah oui.
Voilà, j'ai eu envie d'aller voir. Je suis pas encore allée, mais je pense qu'elle n'existe pas. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller et de découvrir peut-être des endroits.
Je ne veux pas non plus en dire trop, mais elle a fait allusion à une histoire qui s'appelle Le Petit et le Grand. Voilà. Et ça, ça a été la première réaction de Catherine. Elle a dit, tu les as connus, les deux.
Je lui dis, mais c'est... Comme cette histoire est réelle.
C'est complètement inventé, voilà,
on
c'est
a
tout.
On a envie d'aller voir.
Sauf que ça se passe à Pont-en-Royan, voilà, et que ça raconte Pont-en-Royan aussi, quoi.
Voilà. Voilà, mais j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, je me suis vraiment fait plaisir. Merci.
Ouais, fait plaisir.
Mais à peu près pour toutes les histoires, moi je me suis vraiment demandé, mais c'est, enfin tout a l'air réel, tout est si bien fait.
Ben, je crois que t'en as pas reparlé là, mais c'est vrai que c'est une écriture très orale, mais t'as un sens incroyable de la dramaturgie, quoi. T'es un homme de théâtre.
Alors ça c'est important, oui, t'as raison. J'en ai parlé à Vassieux, mais là je n'en parle pas. C'est que, ouais, non, c'est que la dramaturgie, c'est un, effectivement quelque chose qu'on apprend sur le théâtre. Hein, quand on va à une école de théâtre, et puis j'ai surtout beaucoup fait de mise en scène. Et le mot, le drame, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui est utilisé, pas à contresens, mais qui est utilisé toujours dans le sens tragique. Alors que le drame, étymologiquement, ça veut dire ce qui fait, ce qui met en mouvement les gens, drama. Hein, c'est qu'est-ce qui fait avancer les gens, qu'est-ce qui fait.
La drôme.
Quand, hein, quoi ?
La drôme, c'est la même étymologie, non, je pense, non ?
Je crois pas. Enfin, mais pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, ça peut être un slogan même pour le département un jour.
Le drame dans la drôme.
Mais, et ça, c'est important, effectivement, dans n'importe quelle histoire, de se dire... Si on ne veut pas partir dans tous les sens, voilà, se dire quel est le drame, dans le sens que j'ai dit, de ce que je raconte. Qu'est-ce qui met en mouvement les personnages, voilà. Alors, il peut y avoir des choses anecdotiques, mais après, c'est très simple. C'est une manière aussi, après, d'aborder, quand on met en scène un texte, de se dire toujours, qu'est-ce que ça raconte, ce texte, en trois mots, quoi. Capable de dire en trois mots, ça raconte ça. Et s'il n'y a pas ça dans la manière dont je vais le mettre en scène, j'aurais loupé l'histoire. Après, je peux, sans trahir ça, le faire sans doute de manière différente. Je parle scéniquement, mais ça, c'est vraiment un bon réflexe de se dire, je trouve, oui, qu'est-ce qu'il y a finalement d'important là-dedans. Pointe à la ligne, si vous voulez dire qu'il y a plein de petites choses autour, mais quand même. Voilà, très simple. Je prends toujours cet exemple parce que c'est la première pièce sur laquelle j'étais assistant metteur en scène au Théâtre des Amandiers à Nanterre, c'était Othello. Voilà. Et Othello, ça ne peut pas être autre chose que la jalousie, le drame. Le reste, après, il y a des personnages comme ci, comme ça, il se passe des choses, mais voilà, le mot, c'est la jalousie. Et si on, ça ne transpire pas la jalousie, ce qu'on va faire sur scène, on aura loupé, je crois, Shakespeare. Voilà.
Salut François.
Bonjour.
Donc, j'ai bien compris que tu avais quelques matériaux avant d'écrire ce livre. Mmh. Tu l'as écrit essentiellement une fois que tu es parti de Pont. Mmh. Est-ce que si tu étais resté à Pont, tu l'aurais écrit ?
Je crois pas. Non, très franchement, je crois pas. Je crois pas que... Alors c'est vrai que j'étais à la retraite, je vieillissais, j'avais plus de temps, mais quand même. Parce que voilà, ça prend aussi finalement du temps d'écrire. Enfin du temps, oui. Il faut se consacrer et puis y revenir et puis voilà. Or si j'étais resté à Pont, j'aurais continué à pêcher le plus possible, à jouer à la boule lyonnaise le plus possible, n'ayant plus à travailler, enfin voilà. Alors que là, tu vois, j'ai effectivement plusieurs histoires qui parlent de la rivière, mais j'ai jamais retouché une canne à pêche depuis que j'ai quitté. Bon, hein. J'ai pas le goût.
Voilà. Mais tu avais besoin d'une certaine vacance.
Oui, je crois. Et puis de peupler un peu un désert, hein, entre guillemets.
Les petites illustrations que tu as fait,
oui.
C'est quelque chose que tu avais fait avant ou après ?
Ah non, ça je l'ai fait après.
Après.
Enfin, je l'ai fait pour ce que j'avais écrit, non.
D'accord.
Non, j'ai.
Parce que je sais que tu dessines souvent.
Oui,
je dessine souvent,
donc j'ai fait des petites illustrations qui sont en noir et blanc. Et la couverture dont je parle à la fin est de ma fille, qui est graphiste et qui, je crois, a compris le livre. Enfin bon, c'est un beau livre, je trouve. En soi, je ne sais pas si c'est intéressant à lire, mais c'est un objet qui est pas mal.
Il n'est pas que décoratif. Hein. Le papier, c'est du 135 grammes ou 115. Enfin, c'est du papier épais, quoi. Et c'est du beau papier. La couverture est magnifique, la couverture d'Amélie. Et il est très agréable, il est encore un peu plus que douce pour la typographie, parce que François pense que ses amis vieillissent un peu.
Ah oui.
D'habitude, on fait du corps 11 dans un livre, on ne fait pas du corps 12 et quelques. Voilà. Donc non, c'est un livre... C'est un bel objet, moi je suis contente. Parce que... Puis il est à 12 balles, quoi, il n'est pas cher. Non, c'est vrai parce qu'on ça ne paye que l'imprimeur. Quoi. Notre seul objectif, c'est de rembourser l'imprimeur. Moi, je suis à la retraite aussi. Quoi, donc...
Voilà. Et merci vraiment au comptoir d'édition, parce que ça, c'est aussi un truc. Aujourd'hui, on peut publier à compte d'auteur des choses assez facilement. Enfin, après... Mais là, c'est vraiment édité. Moi, je n'ai rien fait. À part envoyer les textes et puis après dire ouais, c'est bien, ça va. Mais voilà, même pour ici, enfin, c'est le travail d'un éditeur, mais il est sympathique et bien fait ici. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais...
Catherine, quelques mots sur comptoir d'édition. Est-ce qu'il y avait d'autres parutions avant? Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Il y a dans la nouvelle formule comptoir d'éditoriste, il y a Gagner la montagne de Luc Fox.
Oui. Qui est
Lucas,
sur la table.
Voilà, qui est pareil, qui a un livre. Et puis Lucas, c'est quelqu'un qui avait fait un premier livre, qui a écrit ça et qui a un vrai enjeu d'écriture. On est plus dans. C'est hyper sensible, il gère des trucs d'émotion à lui. Et c'est très beau sur les paysages. Et il a fait un progrès d'écriture entre les deux livres. Le premier était un conte d'auteur.
Oui.
Et celui-là, tu vois, c'est... Donc là aussi, c'est intéressant, si tu veux. C'est ça le travail d'éditeur et de libraire, tu vois. C'est de supporter, d'aider des auteurs à émerger aussi, quoi. Tu vois.
Oui, François, est-ce que tu ne vas pas participer à la surfréquentation du Vercors? Parce qu'après, moi, je ne l'ai pas lu encore, hein, mais après, les gens vont vouloir voir tes coins secrets et tu vas pouvoir faire les coins secrets, les coins sublimes de François Brunswick.
Sur les routes sublimes de François.
Je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais c'est un problème important. Pardon. Non, mais je ne sais pas. Puis ceux qui... Moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont rien à voir avec le Vercors, là, qui viennent en vacances, ou je ne sais pas, qui prennent ce livre. Je ne crois pas, là, par contre, qu'ils iront gratter. Enfin, voilà, ça sera fait. Mais des gens d'ici, oui, peut-être qu'ils essaieront, la preuve, de trouver les traces de ce dont je parle, et qui, parfois, n'existent pas.
Pour te rassurer, je pense que tu ne feras pas venir plus de motards, et quant aux randonneurs à pied, moi, ils ne me dérangent pas. Je préfère les voir sur les sentiers du Vercors que dans les bistrots.
Ah, d'accord. Hein, ils feront peut-être les deux aussi. Mais ça, c'est intéressant ce que dit Bruno, comme ça, en sous-main, entre guillemets. Parce que c'est l'histoire des motos dans le Vercors, par exemple.
C'est un fléau.
C'est un fléau, mais c'est un fléau que, comment dire, qui est subi gentiment depuis, parce que ça fait 20 ans hein, quand même qu'au bureau du parc, justement, c'est venu, etc. Ça fait 20 ans qu'on le subit et qu'on ne prend pas vraiment le taureau par les cornes. Et je rappelle toujours, parce qu'à l'époque, au parc, on en avait parlé, il y a des petites régions de France... Ils sont très fréquentés aussi, je pense à la vallée du Lot, par exemple, ces coins-là. Où ils ont, parce qu'ils sont très organisés, les motards, ils ont des fédérations, des machins, des clubs, etc. Et ils ont conventionné avec tout ça, avec des règles, entre guillemets, des chartes, hein, ce qu'on appelle des chartes, mais qui, paraît-il, sont très respectées. Voilà, avec, en disant, jamais plus de cinq motos ensemble. Jamais ces week-ends-là. Il y a des week-ends qui sont totalement... et il paraît que ça fonctionne bien, quand même. Et ce n'est pas des parcs. C'est ça qui me gêne. C'est que c'est... Je ne sais pas quelle organisation. C'était les premiers, peut-être, syndicats de communes. Je ne sais pas comment ça marchait, mais...
Je ne sais pas s'ils ont une charte, mais... Juste avant de venir dans les gorges de la Bourne, alors que je croisais une voiture, ils m'ont quand même doublé. Et il y avait vraiment très très peu de place entre les deux voitures. Et je pense qu'ils ne viennent pas visiter le Vercors, c'est un circuit de rallye pour eux, tout
bien
simplement.
Sûr, c'est des routes formidables pour faire du rallye.
Des sublimes routes.
Vous ne voulez plus rien savoir, c'est bien.
On peut dire.
En tout cas, merci.
Merci encore d'être venu, François. C'est vraiment un honneur et je suis enchantée de t'avoir rencontré.
C'est grand.
Merci à Catherine de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé la rencontre entre nos mains. Et merci à Jean-Claude d'avoir enregistré tout ça pour Radio Royan. Merci à Radio Royan. Merci à vous tous et toutes qui êtes là à la bouillotte ce soir. Merci et bonne soirée.